professeurs négationnistes. Il n'y a pas d'universitaires sérieux qui sont négationnistes. À mon avis, on a gonflé cet négationnisme et voilà, on m'a collé pour fermer la bouche. Vous savez, on m'a traité comme un traître du peuple juif. Il y avait ceux qui ont dit « Hitler n'a pas réussi à détruire le peuple juif et voilà, Shlomo Sand réussit à le faire ».
Ça, c'est la première, évidemment. Cette accusation-là, elle était prévisible. Vous la pensiez en écrit.
Ah bon ? Non, parce qu'en Israël, j'ai été attaqué, mais personne n'a pas pensé en Israël que je suis négationniste. Parce que j'ai écrit des choses à propos des Shoah, à propos des nazismes et tout ça. C'est-à-dire, j'écris un livre sur le cinéma, et il y a un chapitre entier sur le Shoah et le cinéma face au Shoah. Et à propos du négationnisme, c'est très, très parisien.
C'est ça, parisien. Ouais. Parlez-moi un petit peu aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays. Est-ce que vous êtes heurté au même...
J'étais insulté à Londres moins qu'à Paris. C'est très intéressant. Et c'est intéressant, à Berlin moins qu'à Paris. J'étais reçu à Londres beaucoup mieux qu'à Paris. Certains historiens anglais et des grands historiens comme Eric Hobsbawm a dit, sans qu'on se connaisse personnellement, il a dit qu'il ne croit pas que livre change le monde, mais s'il y a un livre qui peut le faire, c'est cet livre-là.
Oui, alors vous le citez, Eric Hobsbawm. Hein.
Oui, sur une autre chose. pas sur moi-même. Hein. Non,
oui.
Comme étudiant en histoire, j'ai toujours admiré les historiens anglais comme Thompson et Hobsbawm. J'étais très, très proche d'eux. Je ne sais pas si vous connaissez ici en France le nom de Terry Eagleton.
Oui.
Donc, il a choisi mon livre comme le livre d'année, c'est-à-dire... Je n'ai pas compris. Et après, comme le New York Times, le Wall Street Journal et les autres grands journaux américains ont commencé à écrire sur le livre, et j'étais invité à New York, à Los Angeles, partout. Dans le monde anglo-saxon, il y avait moins de violence, à mon avis, qu'il y avait en France, je crois, oui. Mais aussi, il y avait des historiens en France qui ont accueilli le livre comme un chef-d'œuvre. Non, franchement, je crois que je suis plutôt comme cet enfant dans la petite histoire d'Andersen qui montre que le roi est nu. Mais cet petit enfant n'est pas un génie, vous comprenez? Je suis plutôt cet enfant, plus de sagesse, je crois que dans mes livres, il y a du courage.
Alors, comment la terre d'Israël fut inventée, Shlomo Sand, de la terre sainte à la mère patrie? On passe maintenant, après avoir évoqué le précédent, au livre que vous publiez ces jours-ci, comment la terre d'Israël fut inventée. Évidemment, ça va faire du bruit, ça va faire grand bruit pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a une légende qui est installée. On a parlé des mythes qui, évidemment, sont extrêmement puissants, en l'occurrence. Et évidemment qu'à la naissance de tout État, il y a des mythes, il n'y a pas que des vérités, il y a toujours des histoires qui servent à la fondation des États. Et vous commencez par une réflexion sur le processus constitutif des nations, comment se sont formées les nations de façon générale. Vous ne parlez pas forcément uniquement d'Israël, mais vous nous donnez un cours très intéressant pour nous, les Français, qui vivons dans un État-nation accompli, l'un des rares qui soit complètement intégré, avec on a mélangé tout le monde, on est un des rares et qui a servi de modèle, entre autres, et vous nous racontez comment ça s'est passé. Et on passe, c'est passionnant de voir comment... c'est une histoire très récente.
Hein, les patries, c'est très récent.
Oui.
Premièrement, comme dans le premier livre que je donne une certaine base théorique à propos des nations, dans ce livre, j'ai essayé la première fois d'expliquer qu'est-ce que ça... La patrie, c'est-à-dire le territoire national. Et la mère patrie, comme vous disiez en français. Et j'ai découvert que c'est une invention très récente. Et en France, surtout, c'est la Révolution française qui apporte ça vers les masses. L'idée qu'il y a que la terre nationale appartient à la nation. Et moi, je crois que la démocratie joue un grand rôle. La démocratie dans le sens que l'État appartient au peuple et pas au roi. Et à ce moment-là, si l'État appartient au peuple, ça veut dire que la terre aussi... C'est une propriété collective. Et voilà une des origines de ce rapport avec les territoires qui a fait plein de guerres les dernières 150 ans. On ne peut pas laisser un kilomètre de la patrie. On ne peut pas laisser une partielle de la capitale qu'on a. Vous comprenez, c'est une sorte de capitale physique, territoriale des nations.
Ça a entraîné les grandes guerres du XXe siècle.